James, un portrait de femme, chapitre 7. L'oncle et la nièce s'amusaient souvent ainsi à parler de l'attitude du public anglais, comme si la jeune fille avait été à la veille d'en affronter le jugement. Or, en fait, le public anglais restait pour l'instant profondément indifférent à la personne de Miss Archer, que sa destinée avait fait tomber, comme le disait son cousin, dans la plus morne des maisons anglaises. Son oncle, tourmenté par la goutte, recevait peu, et Mrs. Touchett, faute d'avoir entretenu des rapports avec les voisins de son mari, n'était pas en droit d'attendre leur visite. Elle avait cependant un goût particulier, elle aimait recevoir des cartes. À ce que l'on appelle les relations mondaines, elle ne prenait qu'une satisfaction médiocre, mais rien ne lui plaisait plus que de voir la table du vestibule couverte d'une blanche moisson de cartons oblongs et symboliques. Elle se flattait de posséder un sens très net de la justice, et s'était pénétrée de cette vérité absolue qu'en ce monde on n'a rien pour rien. Elle ne jouait jamais dans le monde le rôle de maîtresse de Garden Court, et n'escomptait pas qu'on l'on pût tenir dans le voisinage un compte précis de ses allées et venues. Mais il n'est pas du tout certain qu'elle ne s'offusquât pas en secret de cette indifférence, et que son insuccès, d'ailleurs tout volontaire, à s'assurer une place d'honneur aux alentours, ne fut pas pour beaucoup dans l'aigreur de ses allusions au pays adoptif de son mari. Isabelle se vit bientôt réduite au rôle singulier de défendre la Constitution britannique contre sa tante, qui se plaisait à larder de coups d'épingle cette vénérable institution. Isabelle se sentait toujours portée à boucher les trous d'épingle, non qu'elle en attendît grand dommage pour le vieux parchemin résistant, mais parce qu'il lui semblait que sa tante avait meilleur usage à faire de sa vivacité d'esprit. Elle était elle-même encline à la critique, comme le voulaient son âge, son sexe et son origine. Mais elle était aussi fort sentimentale, et il y avait dans la sécheresse de Mrs. Touchett quelque chose qui faisait jaillir le flot de son indignation. « Au nom de quel critérium parlez-vous donc ? » demandait-elle à sa tante. « Il faut en choisir un pour tout critiquer ici comme vous le faites. Le vôtre ne paraît pas être celui des Américains, puisque tout vous déplaisait chez nous. Moi, quand je fais des critiques, j'adopte un point de vue essentiellement américain. » « Ma chère enfant, répondait Mrs. Touchett, il y a autant de points de vue au monde que de gens intelligents. Je reconnais d'ailleurs que ce n'est pas beaucoup dire. Mais vouloir se placer au point de vue américain, quelle affreuse étroitesse! Mon point de vue est bien à moi, grâce à Dieu !» Cette réponse parut à Isabelle plus sensée qu'elle ne voulait l'admettre. Elle n'aurait guère pensé autrement elle-même, mais n'eût pas osé l'avouer. Dans la bouche d'une personne moins avancée en âge et moins riche d'expérience que Mrs. Touchett, pareille profession de foi eût pris un parfum de vanité et même d'arrogance. Elle y fit pourtant allusion au cours d'un entretien avec Ralph, avec lequel elle parlait volontiers sur un ton qui autorisait une certaine extravagance. Son cousin la taquinait souvent. Il s'était fait près d'elle la réputation de tourner toutes choses en plaisanterie et n'était pas homme à négliger les privilèges qu'une telle attitude comportait. Isabelle lui reprochait de manquer odieusement de sérieux et de tout railler, à commencer par lui-même. Le peu de respect qu'il pouvait posséder se concentrait exclusivement sur son père. Quant au reste, il exerçait indifféremment sa verve sur le fils de son père, sur les mauvais poumons de cet individu, sur sa vie d'oisiveté, sur son extravagante mère, sur ses amis, et Lord Warburton en particulier, sur son pays d'adoption et son pays natal, sur sa nouvelle et charmante cousine. « J'entretiens dans mon antichambre, lui dit-il un jour, un orchestre qui a l'ordre de jouer sans arrêt et qui me rend deux précieux services. Il empêche les bruits du dehors d'arriver à mes appartements privés et fait croire au public que l'on danse chez moi. » C'était bien de la musique de danse que l'on entendait apporter de l'orchestre de Ralph, et les valses les plus joyeuses semblaient se jouer dans l'air. Isabelle s'irritait parfois de cet éternel persiflage. Elle aurait voulu franchir l'antichambre, comme disait son cousin, et pénétrer dans les appartements privés. Il avait beau affirmer que c'était un fort déplaisant endroit, elle eût volontiers entrepris d'y balayer et d'y remettre de l'ordre. Ralph ne faisait montre que d'une hospitalité restreinte, en la laissant piétiner au dehors, et méritait en retour les tapes innombrables que lui administrait Isabelle avec la férule de son esprit jeune et droit. Reconnaissons que cet esprit s'employait souvent à sa propre défense, car son cousin s'amusait à l'appeler Columbia et l'accusait d'un patriotisme si ardent qu'il brûlait ses voisins. Il fit d'elle une caricature où il la représentait sous les traits d'une fort jolie femme, drapée à la mode du jour dans les plis du drapeau national. La plus grande terreur d'Isabelle, à cette époque de sa vie, était de paraître étroite d'esprit. La seconde, qui ne lui cédait que de peu, de l'être réellement. Elle ne se faisait pourtant aucun scrupule d'abonder dans le sens de son cousin et de prétendre soupirer pour des charmes de son pays natal. Elle se montrait aussi américaine qu'il plaisait au jeune homme de l'affirmer, et s'il trouvait là prétexte à moquerie, elle saurait lui donner forte occupation. Elle défendait l'Angleterre contre Mrs. Touchett, mais quand Ralph commençait à chanter ses louanges pour la faire monter, comme elle disait, elle se sentait en antagonisme avec lui sur bien des points. En réalité, l'atmosphère de ce petit pays bien mûr lui semblait aussi suave que le parfum d'une poire d'octobre, et son contentement était à la base de la bonne humeur qui lui permettait d'accueillir les taquineries de son cousin et de lui renvoyer la balle. Si cette bonne humeur faiblissait parfois, ce n'était pas parce qu'elle s'estimait offensée, mais parce qu'elle s'apitoyait soudain sur le compte de Ralph. Il lui faisait l'effet de parler en aveugle et de mettre peu de chaleur dans ses paroles. « Je ne sais pas si je me trompe, lui dit-elle un jour, mais je vous soupçonne d'être un joli farceur. » « C'est votre droit, répondit Ralph, qui n'était pas habitué à s'entendre parler aussi sincèrement. « Je ne sais pas à quoi vous tenez, et je crois qu'en définitive, vous ne tenez à rien. Vous ne vous souciez pas le moins du monde de l'Angleterre, quand vous en dites du bien, plus que vous ne vous souciez de l'Amérique, quand vous en dites du mal. « Je ne tiens qu'à vous, ma chère cousine, dit Ralph. « Si je le croyais seulement, je serais déjà contente. « Je l'espère bien, s'écria le jeune homme. Isabelle aurait pu ajouter foi à cette affirmation sans être loin de la vérité. Il pensait beaucoup à elle. Elle était sans cesse présente à son esprit. En un temps où ses pensées lui étaient à charge, l'arrivée soudaine de la jeune fille, qui ne promettait rien et était un libre don du destin, était venue rafraîchir et vivifier ses rêveries, leur avait donné des ailes et un but vers lequel voler. Le pauvre Ralph venait de vivre quelques semaines de lourde mélancolie. Sa mine, habituellement sombre, était encore obscurcie par un nuage épais. Il s'inquiétait de la santé de son père, dont la goutte, jusque-là confinée à ses jambes, menaçait d'atteindre bientôt des régions plus vitales. Le vieillard avait été gravement malade au printemps, et les médecins laissaient comprendre à Ralph qu'une nouvelle attaque serait moins facile à combattre. Le malade paraissait momentanément soulagé, mais Ralph ne pouvait se défaire du soupçon que ce répit était un subterfuge de l'ennemi qui attendait pour mieux attaquer le moment où il ne serait plus sur ses gardes. Si la manœuvre réussissait, il n'y aurait plus grande résistance à espérer. Ralph avait toujours été convaincu que son père lui survivrait et qu'une voix sinistre crierait d'abord son nom à lui. Père et fils avaient été très intimes, et l'idée de poursuivre seul le reste d'une route insipide semblait amère au jeune homme qui avait toujours compté tacitement sur l'aide de son aîné pour tirer le meilleur parti possible d'une piètre existence. La perspective de perdre son grand motif de vivre privait aussi Ralph de son unique inspiration. S'ils avaient pu mourir en même temps, tout eût été pour le mieux, mais sans l'encouragement de la société paternelle, il n'aurait guère la patience d'attendre son tour. Il n'aurait pas le réconfort de se sentir indispensable à sa mère, qui s'était fait une règle de n'avoir jamais de regrets. Il songeait bien, évidemment, qu'il était peu charitable pour son père de souhaiter que des deux le membre actif subît plutôt que le passif la rude blessure, et se souvenait que le vieillard avait toujours traité sa prédiction d'une mort prématurée comme une aimable fantaisie dont il serait pour sa part ravi de démontrer le mal fondé en mourant le premier. Mais de ces deux plaisirs, celui de réfuter un fils déraisonnable et celui de voir prolonger un état dont il savait jouir malgré toutes ses restrictions, Ralph ne croyait pas faillir à son devoir filial en souhaitant que le second fût accordé à Mr. Touchett. C'est à ces beaux sujets de méditation que l'arrivée d'Isabelle mit un terme. Elle lui fit même envisager la possibilité d'une atténuation à l'intolérable peine de survivre à un père très aimé. Ralph se demanda s'il éprouvait de l'amour pour cette primesautière jeune habitante d'Albany, mais à la réflexion, il conclut par la négative. Une semaine d'intimité le confirma dans cette opinion, que chaque nouveau jour vint corroborer. Lord Warburton ne s'était pas trompé sur le compte d'Isabelle. C'était véritablement une petite personne intéressante. Ralph s'étonna d'une aussi prompte découverte, puis n'y vit qu'une nouvelle preuve de la perspicacité de son ami, qu'il avait toujours fort admiré. Si la présence de sa cousine ne devait être pour lui qu'un divertissement, du moins Ralph se rendait-il compte que ce divertissement serait de l'ordre le plus élevé. Une personnalité de cette sorte, se disait-il, une vraie force passionnée en action, représente un spectacle de la nature, plus beau que la plus belle œuvre d'art, qu'un bas-relief grec, qu'un grand Titien, qu'une cathédrale gothique. Il est fort agréable d'être aussi bien traité quand on y comptait le moins. Jamais je ne m'étais sentie plus triste et plus découragée qu'avant sa venue. Jamais je ne m'étais aussi peu attendue à un événement heureux. La poste m'apporte sans crier gare un Titien à pendre au mur, un bas-relief grec à poser sur ma cheminée. On me met dans la main la clé d'un superbe édifice où je n'ai qu'à me promener et qu'à admirer. Mon pauvre ami, tu t'es montré bien ingrat et tu n'as plus à l'avenir qu'à te tenir tranquille sans jamais grogner. La teneur générale de ces réflexions était fondée, mais il n'était pas tout à fait exact que Ralph Touchett eût sa clé en main. Sa cousine était une fille brillante, qu'il fallait, comme il le disait, étudier avec soin, et l'attitude de Ralph à son endroit était plus contemplative et critique que judicieuse. Il admirait l'édifice du dehors et l'admirait fort. Il en regardait les fenêtres avec une impression de proportions harmonieuses, mais il n'en avait que des aperçus furtifs et n'avait pas encore pu s'abriter sous son toit. La porte était fermée, et de toutes les clés qu'il gardait dans sa poche, il était convaincu qu'aucune ne l'ouvrirait. Isabelle était intelligente et généreuse, c'était une libre et belle nature, mais qu'allait-elle faire d'elle-même? Question quelque peu indiscrète et qui ne se pose pas pour la plupart des femmes. La plupart des femmes ne font rien du tout d'elles-mêmes. Elles attendent, dans des attitudes plus ou moins gracieusement passives, qu'un homme passe sur leur route et leur assure une destinée. L'originalité d'Isabelle était qu'elle donnait l'impression d'avoir des intentions personnelles. « Si jamais elle les met à exécution, se disait Ralph, je voudrais bien être là pour voir. » C'est à lui qu'incombait naturellement le soin de faire les honneurs du pays. Mr. Touchett était confiné dans son fauteuil, et sa femme faisait figure d'assez maussade visiteuse. Aussi le devoir et l'inclination se combinaient-ils harmonieusement pour dicter à Ralph sa ligne de conduite. Il n'était pas grand marcheur, mais parcourait le domaine avec sa cousine, promenade favorisée par la persistance du beau temps que n'avait pas laissé espérer à la jeune fille des prévisions lugubres sur le climat anglais. Pendant les longs après-midi, dont la longueur était juste à la mesure de son ardente activité, ils allaient en bateau sur la chère petite rivière, comme disait Isabelle, la rivière dont la rive opposée semblait encore au premier plan du paysage. On parcourait le pays en phaéton, un phaéton bas, vaste, à larges roues, que Mr. Touchett avait beaucoup employé, mais dont il avait depuis peu cessé de jouir. Isabelle l'aimait fort, et tenant les rênes d'une façon que le groom qualifiait de savante, ne se lassait jamais de conduire les magnifiques chevaux de son oncle, le long des routes sinueuses et des petits chemins, qui offraient à sa vue tous les traits campagnards dont elle rêvait naguère. Chaumières à toits de paille et à poutres saillantes, auberges treillissées et sablées, communaux dépeuplés et parcs déserts, haies épaissies par la mi-été. De retour à la maison, les jeunes gens trouvaient le thé servi sur la pelouse et constataient que Mrs. Touchett s'était pliée à la dure nécessité d'offrir une tasse de thé à son mari. Mais les deux époux observaient en général un silence parfait. Le vieillard gardait la tête droite et les paupières closes, sa femme se penchait sur son tricot, avec cette mine de rare profondeur que prennent certaines femmes pour observer le mouvement de leurs aiguilles. Un jour cependant, survint un visiteur. Après une promenade d'une heure sur la rivière, les deux jeunes gens aperçurent en rentrant Lord Warburton installé sous les arbres et engagé avec Mrs. Touchett dans une conversation dont l'allure nonchalante se devinait, même à distance. Il était venu en voiture, avec un léger bagage, et avait demandé à dîner et à passer la nuit, comme Mr. Touchett et son fils l'y conviaient souvent. Une brève entrevue d'une demi-heure, le jour de son arrivée, avait suffi à Isabelle pour constater qu'il lui plaisait. Il avait en réalité produit une impression assez vive sur l'esprit de la jeune fille, et elle avait depuis pensé à lui plus d'une fois. Elle souhaitait bien le revoir, comme elle espérait voir d'autres personnes. Gardencourt n'avait rien de morne et restait un lieu incomparable. Son oncle se révélait de plus en plus comme le trésor des grands-pères, et Ralph n'avait rien à voir avec les cousins qu'elle avait déjà rencontrés et qui lui faisaient concevoir une piètre idée du cousinage. Quant à ses impressions, elle gardait une telle fraîcheur et se renouvelait si vite qu'elle ne laissait entre elles aucun soupçon de vide. Mais Isabelle se répétait qu'elle s'intéressait à la nature humaine et que son plus grand espoir, en ce voyage d'Europe, était de voir beaucoup de gens. Quand Ralph lui disait, comme il l'avait fait à différentes reprises, « Je me demande comment vous pouvez trouver cette vie tolérable. Vous devriez voir vos voisins, nos amis, car nous en avons quand même quelques-uns, bien que cela doive vous paraître impossible, quand il lui proposait d'inviter un tas de gens, comme il disait, et de lui faire connaître la société anglaise, elle applaudissait à cette disposition hospitalière et promettait à l'avance de prendre sa part de peine. Mais ces propositions n'avaient jusque-là pas eu beaucoup de suite, et nous pouvons avouer au lecteur que si le jeune homme différait de les mettre à exécution, c'est qu'il trouvait bien moins pénible la tâche de distraire sa compagne que de faire appel à une aide étrangère. Isabelle lui parlait souvent de spécimens, et le mot tenait une place importante dans son vocabulaire. Elle lui avait laissé comprendre son désir de voir les cas éminents qui illustrent la société anglaise. « Tenez, voilà un spécimen, » fit-il, en apercevant Lord Warburton. « Un spécimen de quoi ?»« De gentleman anglais. »« Voulez-vous dire qu'ils soient tous comme lui ?»« Oh non, pas tous !»« C'est un bon échantillon, alors, » dit Isabelle, « parce que je suis sûre qu'il est aimable. » Oui, très aimable, et très riche aussi. » Le riche Lord Warburton serra la main de notre héroïne et s'enquit de sa santé. « Question d'ailleurs bien superflue, » ajouta-t-il, « puisque vous venez de ramer. »« J'ai ramé un instant, en effet, » dit Isabelle, « mais comment le savez-vous ? » ?»« Oh, je sais qu'il ne rame pas, lui, » dit le Lord, en désignant Ralph avec un rire. « Il est trop paresseux pour cela. » »« Il a une bonne excuse à sa paresse, » dit Isabelle en baissant la voix. « Ah, il trouve toujours de bonnes excuses, » insista Lord Warburton, sans réprimer la sonorité de son rire. « Ma véritable excuse pour ne pas ramer, c'est que ma cousine rame fort bien, » expliqua Ralph. « Elle fait bien tout ce qu'elle fait. Elle ne peut rien toucher sans l'embellir. »« Cela donne envie d'être touchée par vous, Miss Archer, » déclara Lord Warburton. « Soyez-le au sens propre du mot, et vous ne vous en trouverez pas plus mal, » fit Isabelle. Qui, s'il ne lui déplaisait pas d'entendre déclarer que ses talents étaient nombreux, avait le droit de ne pas voir dans cette satisfaction la marque d'une petitesse d'esprit, puisqu'elle excellait en effet en beaucoup de choses. Son désir de garder d'elle-même une bonne opinion comportait assez de modestie cependant pour avoir besoin de s'étayer sur une preuve. Lord Warburton ne passa pas seulement la nuit à Garden Court, mais se laissa persuader d'y rester un jour de plus, puis à la fin du second jour, décida de remettre son départ au lendemain. Pendant ce séjour, il s'adressa souvent à Isabelle, qui accueillit de fort bonne grâce cette marque d'estime. Elle s'aperçut qu'il lui plaisait extrêmement. Dès le premier moment, il avait fait sur elle une impression sérieuse, mais une soirée passée en sa compagnie le para presque à ses yeux des traits, sans mélancolie aucune, d'un héros de roman. Elle regagna sa chambre avec une impression d'heureuse rencontre, avec un sens plus vif de félicité possible. « Quelle aubaine de connaître deux hommes charmants comme ceux-là, » se disait-elle, en comprenant dans le « ceux-là » son cousin et l'ami de son cousin. Il faut d'ailleurs faire mention d'un incident survenu ce soir même et qui aurait pu mettre sa bonne humeur à l'épreuve. Mr. Touchett était monté se coucher à 9h30, mais sa femme resta dans le salon avec les autres membres de la société. Elle prolongea sa veille d'une petite heure, puis se leva en faisant observer à Isabelle qu'il était temps de dire bonsoir aux jeunes gens. Or, Isabelle n'avait aucune envie de se retirer. Cette soirée prenait un peu à ses yeux un caractère de fête, et les fêtes ne se terminaient pas si tôt. Elle répondit donc simplement et sans réfléchir davantage. « Est-ce nécessaire, chère tante ? Je monterai dans une demi-heure. »« Je ne vais pas vous attendre, » déclara Mrs. Touchett. « Oh, c'est bien inutile. Ralph m'allumera ma bougie, » répondit gaiement Isabelle. « Je vous l'allumerai, moi. Permettez-moi de l'allumer, Miss Archer, » s'écria Lord Warburton. « Tout ce que je vous demande, c'est que ce ne soit pas avant minuit. » Mrs. Touchett fixa un instant sur lui ses petits yeux brillants et les reporta froidement sur sa nièce. « Vous ne pouvez pas rester seule avec ces messieurs. Vous n'êtes pas dans votre Albanie, ma fille. » Isabelle se leva en rougissant. « Je voudrais y être, » dit-elle. « Oh, voyons, mère, » intercéda Ralph. « Chère Mrs. Touchett, » murmura Lord Warburton. « Ce n'est pas moi qui ai fait votre pays, my lord, » fit pompeusement Mrs. Touchett. « Je le prends comme je le trouve. »« Alors je ne puis pas rester avec mon cousin, » demanda Isabelle. « Je ne sache pas que Lord Warburton soit votre cousin. »« C'est moi qui devrais aller me coucher, » proposa Lord Warburton. « Cela arrangerait tout ?» Mrs. Touchett prit une mine affligée et se rassit. « Eh bien, puisqu'il le faut, je resterai debout jusqu'à minuit. » Cependant, Ralph tendait un bougeoir à sa cousine. Il la surveillait du coin de l'œil, prête à une flambée de colère, qui pourrait être intéressante. Mais s'il s'attendait à un éclat, Il fut désappointé, car la jeune fille se contenta de pousser un bref éclat de rire, dit bonsoir d'un signe de tête et se retira avec sa tante sur les talons. Ralph se sentit agacé contre sa mère, mais ne lui donna pas moins raison. Les deux femmes se séparèrent à la porte de Mrs. Tutchett. Isabelle n'avait pas ouvert la bouche en montant l'escalier. « Vous êtes évidemment vexée que je me sois mêlée de vos affaires, » dit Mrs. Tutchett. Isabelle réfléchit. « Vexée, non, mais plutôt surprise et très intriguée. N'était-il pas convenable de rester au salon ?»« Pas du tout. Ici, dans les maisons qui se respectent, les jeunes filles ne restent pas seules avec les messieurs après une certaine heure. »« Alors vous avez bien fait de me prévenir. Je ne comprends pas une pareille interdiction, mais je suis très heureuse d'en être informée. » « Je vous préviendrai chaque fois que je vous verrai prendre une liberté excessive, » répondit sa tante. « Je vous en remercie à l'avance, sans pour autant m'engager à toujours trouver vos observations justes. Je le pense bien, vous êtes trop indépendante pour cela. » « Oui, je me crois assez indépendante, en effet, mais cela ne m'empêche pas de désirer savoir les choses qui ne se font pas. »« Pour les faire ?» demanda sa tante. « Pour choisir, » répondit Isabelle.